EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour les filles.
Bonjour Annabelle.
Bonjour Stéphanie. Ça va bien aujourd'hui?
Ça va bien, ouais. très bien.
Ouais, prête pour cette nouvelle, ce nouveau podcast.
Oui.
C'est un mot qui est pas facile à dire, je trouve.
C'est vrai, mais tu le dis très bien.
Bah,
on sent bien.
Faut pas que je le dise trop souvent. Je m'économise pour être sûr de ne pas trop me rater. Aujourd'hui on parle d'identité et si vous me connaissez. Eh bien, si vous connaissez mon identité, vous savez que moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup, l'identité, parce que moi-même, je trouve que le Seigneur m'a beaucoup parlé. Je pense que je vais être perdue dans mon identité.
Tu es le témoin de cette émission.
Peut-être. Qui suis-je? Je ne sais pas. Toi aussi, t'aimes bien le thème de l'identité.
Oui, je trouve c'est
j'ai vu pas mal de choses. Ouais, t'as fait pas mal de choses sur l'identité.
Mais c'est fondamental pour moi. Je trouve que c'est vraiment notre fondation à Christ. C'est ça, oui.
Ok, toi alors, tu sais qui tu es?
Je sais qui je suis.
Je sais qui je suis.
T'as envie de chanter?
Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, comme tu dis, c'est vrai que l'identité, c'est la fondation. Ouais, ça, on commence là, on bâtit à partir de notre identité. Donc c'est de là que tout le reste va en découler après.
Ouais, mais moi, ça me faisait un peu rire, les conversations, les grandes réflexions. On disait qui suis-je, etc. Que tu pouvais entendre quelquefois. Même quand j'étais adolescente, je me souviens, il y en a, ils se posaient vraiment des grandes questions. Et moi, j'ai l'impression que je me posais pas ces questions-là. Mais en fait, peut-être qu'on se les pose pas de cette façon-là, en regardant la pluie tomber. Oui, voilà. Ouais, c'est ça, tu vois, et en ayant des mots en latin qui deviennent, mais on se pose pas forcément la question de façon aussi profonde, philosophique ou intellectuelle, mais je crois que c'est quand même une question qui est dans le cœur de toute personne et qui peut se poser de différentes façons. Même le fait quelquefois, tu vois, des reconversions professionnelles tard, je pense que ça vient d'une source de l'identité qu'à un moment donné tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, est-ce que vraiment ça me plaît, ou alors peut-être c'est le temps de passer à autre chose, et en fait se rend compte que nos choix de vie sont reliés à notre identité.
Oui, puis ça change durant les différentes saisons de notre vie. Tu vois. Mm-hmm. Vous êtes encore jeune, mais tu sais, quand tu as l'étape célibataire, après ça, tu as des jeunes enfants, après ça, tu as le nid vide, ça aussi, c'est une étape importante où tu te recherches tes enfants. Quand les enfants quittent la maison, vous allez voir.
Le nid vide.
Le nid vide, c'est quand tes enfants.
C'est un entier ou.
Emptiness, qu'on dit en anglais. Quand les enfants, ils sont. C'est vrai, quand tu as donné toute ta vie pour tes enfants et que là, tu les vois quitter le nid, mais tu te poses des questions encore sur ton nid, à quoi je sers, qu'est-ce que je vais faire. Donc, il y a plusieurs saisons de notre vie où je pense qu'il faut se réapproprier notre identité.
Oui, c'est ça. Et surtout que, quelque part dans la société, l'identité est trop importante. On a une carte d'identité. Pour certaines personnes, on a un passeport. Il y a des critères qui sont définis dessus. Ton nom, ton prénom, où tu nais et tout, en fonction du pays. Mm-hmm. Il y a différents éléments qui sont dessus. Et ça prouve que la question de l'identité, en fait, elle est abordée à tous les niveaux et dans toutes les sphères, en fait. Donc, tu peux pas être sans identité. Tu vois, ici, c'est John Doe ou je sais plus quoi le nom de la femme, des personnes sans identité. Ouais. Ça n'existe pas. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'autant plus, il faudrait qu'on réalise que de la même manière que dans la société, il y a une identité qui est plus ou moins définie en fonction de certains critères. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on a une identité qui a été définie par notre Père, et c'est important de pouvoir la saisir, la réaliser, parce que c'est elle qui va impliquer la suite de notre vie. Mm-hmm. Ce qu'on écrit sur ta carte d'identité définit beaucoup de choses, en fait. Quand tu vas te présenter pour travailler quelque part, on regarde à ton identité, on voit
la photo
tout ce qui est mentionné.
Moi, j'ai l'air d'une tueuse. Franchement, dire que je sors de prison ou que je devrais rentrer en prison chez moi.
Pas faux, mais la profession, tu vois. C'est pour ça, parce qu'on sait qu'il y aura des têtes de tueurs, mais ce n'est pas des vrais tueurs, tu vois.
Mais tu as tout à fait raison. Par contre, ce qui nous définit sur la carte d'identité, c'est tellement important. Et nous, en plus, on a la meilleure des identités. C'est celle d'être enfant de Dieu. Imagine-toi la carte. Peu importe la photo que tu prends, t'es toujours un enfant avec toutes les privilèges.
Non, c'est vrai. Et en même temps, c'est pas toujours évident. Parce que même en tant que chrétienne, des fois, c'est vrai qu'on peut peut-être intellectualiser notre identité dans le sens, on peut la connaître au travers de tu lis ta Bible, on te la dit à l'église et tout ça. Mais il y a quelque chose entre la savoir et la saisir, la vivre, en être imprégnée. Et je pense que ça, c'est vraiment un défi pour nous tous parce que ça va faire toute la différence en fait. Et ça, ça va avoir... en fait, c'est là où il va falloir prendre un temps de recul et de faire « Seigneur, qui je suis ?» Prendre vraiment un temps avec le Seigneur, mettre de côté peut-être l'environnement, la société, ce qu'on a pu dire sur toi, et vraiment s'arrêter avec le Seigneur. Et puis que le laisser nous parler sur qui on est. Des fois, tu vas peut-être même revenir sur ton enfance, parce que mine de rien, tu vis des choses dans ton enfance qui ont un impact sur qui tu vas devenir. Donc ça peut te donner des filtres aussi sur qui tu es. Ça peut vraiment donner une représentation et tout ça. Et ça peut même te donner des mensonges.
Tu dis des mensonges. Moi, j'ai déjà eu un vol d'identité.
Ah ouais, mais non.
Ouais, littéralement, à quelqu'un qui s'appropriait de mon compte Skype et ainsi de suite. Et il envoyait des messages.
Skype était une. Comment on appelle ça? Une application.
Oui, mais. Que je n'utilisais pas d'ailleurs. Que je n'utilisais pas. Chère dame, que vous n'utilisez
pas. C'est pas si vieux, t'inquiète pas.
J'ai eu un compte Skype.
Moi aussi, j'ai
eu un compte Skype. Oui, oui.
Vous... C'est pour ça que je ne m'en suis pas aperçue, voyez-vous. Ceci étant dit, elle envoyait des messages à cette personne-là, je ne sais pas si c'est un gars ou une fille, en mon nom. Elle se faisait passer pour moi et elle a demandé, elle commençait à me donner des conseils, que c'était moi, que j'allais prier. Et là, finalement, elle offrait, il fallait payer. Alors, si vous avez eu un message de moi qui demandait de l'argent pour la prière, si vous voulez que je prie pour vous, ça va vous coûter tant. Mais c'est un arnaque total, jusqu'à temps que quelqu'un m'a dit, voyons, c'est pas Stéphanie, ça. Merci, Seigneur. Et là, on a tout rétabli la situation. Et même, semble-t-il, que je vendais des bougies. T'achetais des bougies, t'avais... Non, mais c'était complètement... Donc, tu peux te faire voler ton identité et ça te représente pas.
Ah ouais.
J'aime les bougies, mais j'en vends pas. Et surtout, si t'allumes une bougie, je peux rien faire pour toi, tu vois. C'est juste Dieu qui fait quelque chose pour toi. Mais ça a dérangé quand même longtemps, tu sais. Donc, c'est important de connaître son identité.
C'est vrai.
On rit, là, mais l'ennemi, il vient nous voler.
C'est vrai.
Il y a des choses qui se passent, puis c'est pas nous, ça. Notre identité.
J'aime aussi, par rapport à ce que Laure disait tout à l'heure, hier, je me suis fait exactement la même réflexion. Parce que j'étais en train de lire dans Romains, on dit que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et fils de Dieu, c'est une identité, en fait. Mais lorsque on voit notre marche de tous les jours, est-ce qu'on est vraiment conduit? Mais ton identité de fils te rattache à être conduit par l'Esprit de Dieu. Mais donc, quelquefois, on sait, on a l'information qu'on est fils de Dieu. On parle aujourd'hui que Dieu est notre Père et tout, on a une identité en lui. On est fils de Dieu, mais dans notre façon de vivre, on dirait que c'est théorique, comme Laure, tu disais tout à l'heure. On dirait qu'on a juste une information, mais qui ne se traduit pas dans notre quotidien.
Il n'y a pas une vraie influence.
C'est ça, de notre identité dans nos choix, dans ce qu'on vit. Et c'est le fait, en fait, de limiter ça à la théorie qui dérange. On doit pouvoir vraiment s'approprier notre identité de sorte qu'elle fasse partir de nous, mais de façon pleine, en fait, que ce soit vraiment une part de toi. Quand, si je te dis, tu es une femme, Annabelle, mais ça fait partie de toi. Si
une
je viens
belle
te...
femme.
Oui, en plus, oui, en plus.
Source d'apothéose d'identité, tu vois.
Non, mais c'est des choses qui ne se discutent pas, tu vois. C'est évident que c'est le cas. Si je venais plutôt te dire, ah non, mais t'es un homme, Annabelle, tu vas me prendre pour une fille qui n'a pas tous ses sens, tu vois. Parce que c'est évident que tu es une belle femme, Annabelle. Et quelquefois, on peut se permettre de vivre en se disant, je suis fils de Dieu ou fille de Dieu, mais c'est pas si évident. Et on accepte que ce ne soit pas évident.
C'est pas évident, mais c'est parce que c'est pas évident que c'est une grande révélation. Et tu vois, personnellement, le fait à un moment donné d'avoir eu une plus grande révélation du fait que je sois fille de Dieu, ça a bouleversé ma vie. Mais tu m'aurais dit peut-être un mois plus tôt, même une heure plus tôt, Je t'aurais dit, bah oui, je sais, je suis fille de Dieu, tu sais, je suis pas non plus. Tu sais, je sais pas, tu connais ta Bible, t'as entendu des enseignements, tu sais, c'est, et c'est comme tu disais, en fait, là, c'est automatique. Mm-hmm. Et c'est comme même notre identité divine, ça devient une connaissance administrative. C'est une formalité. Oui, je suis fille de Dieu, c'est bon. Ouais. Mais c'est de se prendre le temps de réfléchir. Ouais. Mais ça veut dire quoi, en fait, fille de Dieu?
Des fois, on est influencé par notre arrière-plan, notre culture. Mm-hmm. Tu sais, moi, je viens d'un arrière-plan où c'était axé sur la performance. Vraiment, je ne sais pas si je vous ai raconté, mais quand j'avais tout le temps que je me rappelle, je recevais des cartes d'anniversaire, je pouvais les lire. Tu sais. Mon père, mes parents étaient super bons parents, mais c'était toujours marqué « Je t'aime, nous t'aimons et nous sommes fiers de toi ». Donc, mm-hmm. l'amour était relié à ma performance. Fallait, mm-hmm. si je manquais quelque chose, ben, c'est comme si je me sentais moins aimée. Mm-hmm. C'est pas eux, inconditionnellement, ils ne me le disaient pas comme ça. Mm-hmm. Mais avec Dieu, moi, j'ai dû lutter longtemps mm-hmm. pour comprendre que c'est par grâce. C'est, mm-hmm. Nous sommes aimés. L'amour de Dieu, elle est inconditionnelle. Mm-hmm. Et on ne perd pas notre identité si mm-hmm. on a fait quelque chose. Tu comprends? C'est pas relié toujours à notre performance. Mm-hmm. On est aimé de Dieu de façon inconditionnelle. Mm-hmm. Bien sûr, la Bible nous dit, hein, si on a manqué, si on a péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. On n'est pas une question de qu'on est parfaite. Mais oui, l'idée, c'est que son amour ne dépend pas de notre perfection.
Effectivement.
Et moi, j'ai dû, ça m'a pris longtemps, Annabelle. Mm-hmm. Après, je le savais, tu sais, ça fait plusieurs années que tu lis la Bible, tu sais, mais inconsciemment,
mais il faut qu'il y ait un déclic en toi-même.
Une petite voix qui dit, t'es sûr que ça. Tu mérites ça. Ouais.
Mm-hmm. Il faut qu'en toi-même, il se passe quelque chose.
Ouais.
Et tu vois, par rapport à ce que tu dis, Stéphanie, c'est que l'amour du Père, comme vient te donner, en fait, mettre quelque chose en toi. C'est pour ça que notre identité aussi est reliée à comment est-ce qu'on perçoit Dieu en tant qu'enfant de Dieu. C'est qu'il est le repère, en fait. Et parce qu'il est ton repère, parce que tu comprends son amour, là, tu peux t'ouvrir. Là, tu peux oser être toi. Parce que, tu vois, parfois, on n'ose pas être qui on est parce qu'on connaît pas.
T'as peur de décevoir aussi.
C'est ça, on ne connaît pas l'identité, on a peur de décevoir. Peut-être tu te regardes au travers des yeux de tes amis, de tes parents. Du coup, tu n'oses pas. Mais quand tu regardes au travers des yeux de Dieu, mais là, tu sais que, en fait, je suis une créature merveilleuse. En fait, je peux même me tromper. Tu vois, c'est pas si grave au final. Parce qu'il y a un amour qui dépasse tout, qui est là. Et c'est avec ce regard que je suis jugée. C'est pas avec un regard critique, un regard de manque de grâce.
Ouais, c'est voilà. Ça. Oh, on m'attend là au détour.
C'est trop important pour moi de se dire, en fait, je veux me regarder au travers des yeux de Dieu. Je veux comprendre qui il est parce que je suis sa fille. Et si c'est lui qui m'a fait, ça veut dire qu'on a les mêmes caractéristiques. Tu vois, je suppose que vous ressemblez peut-être à vos parents, je ne sais pas.
Peut-être un de tes fils, tu disais, il ressemble, c'est le portrait craché de son père.
Bah oui, moi, mon fils, c'est Philippe, mon aîné, c'est mon mari en miniature. C'est sûr, tu le vois, il est pareil comme lui. Et mon plus jeune, et au niveau des caractères, c'est différent. Il y a plus mon caractère. Et excellent caractère.
On va parler du caractère un peu plus tard.
Et Jérémy, des fois, il est un petit peu entre les deux. On a de la difficulté, papa ou maman, mais il y a un caractère plus comme mon mari. Mm-hmm. Et on reconnaît, c'est ça, cette
ressemblance.
Ouais.
Et il a rien fait, en plus, c'est ça qui est drôle. T'es ton fils, il est né comme ça, il a rien fait pour dire, tiens, je vais ressembler à mon père et tout. S'est pas fait une chirurgie. c'est venu naturellement.
Exact. Mm-hmm. Mais c'est ça, des fois, j'avais écrit un texte, justement, qui disait, tel père, telle fille, comment, quand les gens nous voient, quand on connaît notre identité, puis on est bien avec nous-mêmes, ils devraient voir en nous le père, tu sais, notre père. Mais c'est un processus, c'est pas toujours facile. Et même saisir il y a des privilèges, tu sais. J'arrive justement de Belgique, tu montes ton passeport canadien, quand tu passes à la douane, tu as des privilèges, on est privilégié de vivre au Canada. Donc, imagine-toi, on a le privilège d'avoir notre Père céleste et tout ce qui vient avec, tu sais. On est co-héritier avec lui.
T'as un cadeau quand tu passes à la douane, toi?
Non, pas du tout.
Elle passe juste plus vite que les autres.
Non, et d'ailleurs, quand je leur dis, quand ils me demandent qu'est-ce que vous faites dans la vie, tu sais, tu peux dire pasteur ou conférencier. peut-être que tu dis pas, stop, ils ont une tranche. Ça n'est pas des pays, mais certains pays, c'est plus compliqué. Mais il y a quand même...
Passez
des...
par là, madame.
Il y a tellement d'avantages quand on saisit notre identité. Mm-hmm. Pensez-y, co-héritière avec Jésus-Christ. Héritière mm-hmm. du roi des rois. Mm-hmm. C'est juste fou.
Moi, j'ai une question, genre c'est des questions à la Stéphanie. Hey, les filles, est-ce que vous savez de quoi ça parle 1 Samuel 16? Là, vous devez le savoir. Maintenant,
vous le savez pas.
La parole est gravée sur mon cœur. Vous.
Je sais, moi. Bon,
bah, oui, ça parle de David.
Ouais, bravo. Tu tentes salut David.
Bon, écoute, je vais arriver à mes questions pour la prochaine fois.
Non, mais c'est un texte, moi, qui m'a toujours parlé par rapport à l'identité concernant David, parce que David... Ouais. Bon, on l'utilise aussi souvent pour parler des parcours ouais. successful qui étaient dans les champs avec ses brebis et puis d'un seul coup qui a dégommé Goliath et après qui est devenu roi. Mais c'est de revenir au tout début, c'est que je pense on a beaucoup de personnes ont une enfance entre guillemets qui ressemble à celle de David où on peut c'est pas
on
quelqu'un
peut pas miser sur toi.
Ouais voilà, on peut pas miser sur toi, on t'oublie
c'est tellement
Et c'est pas et quelquefois je tiens à le dire quand même, c'est pas qu'on a eu des mauvais parents hein.
Non,
c'est
non.
Quelquefois c'est juste
c'est ce que ça avait en fait.
Ouais, c'est ça. Et parce que ça peut aussi provoquer une espèce quelquefois d'amertume vis-à-vis des parents, oui, ils ont jamais cru en moi, etc. Mais ça veut pas dire que c'était des parents qui n'aimaient pas, mais c'est des parents qui ne savaient pas. Mm-hmm. Bon, dans le cas de David, on va pas faire une étude de son père hein, non plus, mais moi je trouve ça quand même fascinant ce qui se passe en peu de temps quoi pour lui. Tu dis que c'est triste parce qu'on l'a oublié. Quand Saül est venu, c'était ça qui était triste.
Il présente tous les autres fils, puis il y a un autre fils, puis lui, il a l'air comme... c'est triste. Ouais,
il a l'air oublié. Après, tu te dis, je sais pas, peut-être qu'il était jeune, tu vois, tu t'imagines pas s'il y a quelqu'un qui vient chez toi pour dire, on fait une nouvelle, on recrute le prochain footballeur ou le prochain président, tu sais, si t'as un enfant qui est beaucoup plus jeune, tu te dis, il a pas ses chances. Donc peut-être, tu vois, que là aussi... Mais n'empêche, que si tu te mets à la place de David dans ton cœur d'enfant, et c'est ça qui se passe, c'est là où on veut aller aujourd'hui, c'est pas avec Isaïe, même si, mais c'est que tu peux te sentir oublié et te dire, tu sais, moi j'avais des grands frères, et puis ils avaient tous quand les gens les voyaient, ils voyaient un avenir pour eux, et on voit dans des familles, puis les gens parlent, les gens parlent, et moi-même, quelquefois, je vais dans une famille, je me surprends à dire un truc, quelle horreur.
Un jour, ma grande sœur, j'ai une grande sœur, on a la même voix, plus ou moins. Puis j'appelle au téléphone. Et puis la personne pensait que c'était ma grande sœur. Puis elle était trop gentille et tout. Après, je dis, mais c'est moi, Aurélie. Ah, c'est toi!
Et là, non, ça a changé.
Et puis, directement, tu vois.
Elle était déçue.
Le ton a changé.
On dirait qu'au début, il y avait du respect et tout, mais là,
c'est toi. C'était la petite sœur.
La petite
Donc, tu veux quoi?
Au final, tu vois. Et par rapport à ce que tu dis, parfois, c'est ça. C'est que si on fait pas attention, la perception que David aurait pu avoir dans son cœur par rapport au fait que ses frères ont été entre guillemets privilégiés, lui il est le petit garçon de course et tout, ça peut brimer. Sauf que le fruit que ça porte comme blessure, ça t'éloigne encore plus de ton identité quand ce n'est pas traitant en fait. Donc peut-être que il y a des personnes qui sont là, qui se disent « Ah, mais moi, il y a toujours ci, il y a toujours ça, tel n'a pas fait ci, tel n'a pas fait ça. » Quand tu es dans cette posture-là, il faut réaliser qu'il y a un problème au niveau de l'identité. Même si c'est légitime, ce que tu dis, c'était légitime. David aurait vraiment pu penser ça. Quand tu vois que c'est ce qui anime ton cœur, que mes parents n'ont pas fait ci, on m'a toujours reproché ça, je n'ai pas grandi comme ci, dans tel environnement et tout, arrête-toi et dis-toi qu'il faut qu'on traite une question identitaire.
Et comme tu dis, même si c'est légitime, il peut y avoir comme une confusion, mais c'était vraiment mal ce qu'ils ont fait. Ils m'ont pas valorisé, ils m'ont pas aidé. Mais c'est pas une raison pour rester dans cet état de blessure. Et comme tu dis, ça nous éloigne encore plus de notre identité.
Et c'est là, et c'est dur des fois de faire la part des choses entre ce que pensent les gens. Parce qu'on va souvent mettre beaucoup d'importance avec notre entourage et notre famille, des choses comme ça, ce qui peut être normal et parce que c'est nos proches. Mais de vraiment mettre notre regard sur Dieu, en fait, qu'est-ce que lui pense de nous. Et ça paraît facile dit comme ça, mais c'est quand même des fois un travail. C'est pas évident parce qu'il faut vraiment te détacher. Ça fait du monde en face, hein, quand même, pour regarder à lui. Et ça, c'est vraiment un travail constant, mais il faut le faire. Il faut vraiment prendre du recul et se détacher et dire, non, Seigneur, OK, on a pu dire ça de moi. Peut-être que je me suis sentie mis de côté. Peut-être si ou ça, mais toi, tu ne m'oublies pas, toi tu me vois, et vraiment être dans la foi d'être certaine que notre papa va prendre soin de nous, il est là pour nous, il veut nous parler, il veut nous révéler notre identité, et lui seul pourra vraiment combler dans tous les petits coins notre identité en fait. Personne ne pourra combler et venir dire qui on est à la place de Dieu, lui seul pourra vraiment combler toute l'entièreté de notre identité.
Mais tu parles de David, c'est tellement un bon exemple, Annabelle, que tu dis de comment c'est un homme qui avait une bonne identité. Quand il va voir justement, il y a Goliath, puis il arrive pour aller combattre, lui il part avec, il n'a pas besoin d'avoir été apte, il va avec l'assurance de qui il est, qu'il a eu, déjà eu des victoires, et son frère il va lui dire, t'es comme un orgueilleux, pourquoi tu viens ici, t'es orgueilleux,
c'est horrible,
tu viens...
Et puis, là, je relisais.
Dis-lui.
Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur.
C'est
hyper violent, quand même. Non, quand j'ai relu, tu sais, je me souviens, je connais ton cœur, mais j'avais oublié qu'il avait dit la méchanceté.
C'est quand même
c'est méchant.
Il aurait pu dire, je m'en mais David, c'est un point de vue. Il aurait pu dire, entre vous et moi, là, moi, je serais peut-être partie, puis je me disais, franchement, laissez faire, ou c'est vrai, ou je serais jamais. Mais lui, il dit, quoi, ne puis-je pas parler de la sorte? Qui est type là, il commence, puis il veut parce que il est bien, il sait sa mission, il connaît, il va avec conviction. Et encore là, une preuve de qui il est, quand il va arriver avec Saül qui veut le tuer, là, puis qui est dans la caverne, puis il aurait pu le tuer, puis il prend juste le pan de son vêtement. Mais quand t'as pas une bonne identité, qu'est-ce que tu fais, hein, quand quelqu'un
est jaloux?
Tu te venges. Et lui, parce qu'il est bien.
J'imagine.
Pas toi, Annabelle. Tu vois, mais gloire à Dieu, il n'y a pas de moi avec.
Ne vous retrouvez jamais dans une grotte avec moi.
Mais c'est vrai qu'il y aurait pu qui, honnêtement, n'aurait pas dit depuis le temps que tu me fais du mal, j'ai tout perdu à cause de toi. Et finalement, tu as perdu son mariage, tout, ça y est, tout. Et puis il ne va pas se venger, c'est parce que tu es bien avec qui.
Oui,
c'est
parce qu'il a
tout
aussi
un travail, c'est tout un travail.
Il y a quelque part aussi une crainte de Dieu. Avec sa façon d'agir.
Oui.
Et pourquoi il a ça, je crois que c'est parce qu'il passait justement du temps avec lui qu'il a eu cette assurance, en fait, dans son identité, qui lui permet d'avoir ce caractère-là devant Saül. Et moi, ça me fait dire que, en fait, tout ce qu'on sait de nous qui ne résulte pas de notre relation avec Dieu, en fait, c'est un masque. Et ça, c'est vraiment des choses que on ne perçoit pas forcément, parce que Dieu va vraiment te révéler qui tu es. Comme Moïse, par exemple. Moïse a grandi chez Pharaon. Il a grandi là. Il avait une identité. Et quand les gens parlaient de Moïse, on savait que Moïse était un homme puissant. Et par contre, quand Dieu rencontre Moïse, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Je sais pas parler. Lui, il se définit avec ses faiblesses, avec ses manques. Le peuple définit Moïse comme un homme puissant parce qu'il a grandi chez Pharaon. Et plus tard, quand on lit dans Hébreu, on nous dit que Moïse était... en fait, c'était le libérateur. Il a servi comme un serviteur de Dieu. En fait, c'était ça, son identité. Et son identité était rattachée un peu à sa mission, à ce que Dieu voulait qu'il fasse sur la terre. Il devait libérer son peuple. Lui, il ne se voyait pas comme libérateur, il se voyait comme un bègue. Le peuple le voyait comme un homme puissant et Dieu le voyait comme le libérateur. Et je crois que quelquefois, on se retrouve dans cette étape-là. S'il n'y a pas eu une rencontre avec Dieu, comme Moïse a eu cette rencontre avec Dieu, où Dieu a dû lui dire en fait, laisse tomber le fait que tu sois bègue et tout, même laisse tomber ton passé avec Pharaon et tout. Si tu n'as pas cette rencontre-là, tu vas vivre avec un masque. Tu vas vivre en sachant que, en fait, moi, je suis bègue. Les autres vont te regarder, vont dire, ah, mais t'es puissant. Il y a des personnes qui sont puissantes sur le papier, mais à l'intérieur, sont tellement faibles, en fait.
C'est une grosse insulte. T'es puissant sur le papier.
Non, mais c'est c'était son cas, tu vois.
Et lui, il va se dévaloriser.
C'est ça.
Il va se dévaloriser, à un moment donné. Et moi, ça m'a parlé souvent. Des fois, on est porté à se dévaloriser. Mais Dieu, il s'est presque choqué. Il a dit, là, saisis-toi, parce que si tu
sais,
tu vas envoyer quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il faut, dans notre. Il y a une part, bien sûr, c'est qu'on a cette. cette responsabilité-là, mmh, de dire à nos pensées, de dire, hey, ça suffit, là. Mmh. C'est pas ce que Dieu pense de moi. Mmh. Dieu, et lui, à un moment donné, Moïse, il a dû se saisir.
C'est ça.
Il l'a utilisé. Ouais. Mais c'est tout déjà arrivé.
Ça nous est arrivé, mais c'est quoi le problème aussi parfois qu'on fait? C'est qu'on va peut-être trop vite, on est trop pressé dans la vie et on prend peut-être pas aussi le temps de s'arrêter sur notre identité. Mmh. Et j'aime trop voir, par rapport à Jésus, quand tu dis que jusqu'à environ 30 ans, il a grandi en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et à environ 30 ans, il a commencé son ministère. Donc certes, Jésus était parfait, voilà, il connaissait son identité. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est quand j'ai entendu dans une prédication que mine de rien, ça représente 90% de sa vie, il a grandi en stature, en sagesse, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et 10% de sa vie, il a fait le ministère. Mmh. Donc certes, son ministère, ça représente plus que je sais pas combien de vies réunies. Mais quand même, moi, ça m'amène à réfléchir et me dire, des fois, peut-être que aussi on est trop pressé dans l'action. Mmh. On connaît notre identité en partie, comme on l'a dit, voilà, en connaissance. Et après, on est, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je veux être en action. Ouais. Et peut-être même qu'on veut être en action pour aller compenser ce qu'on n'est pas allé trouver dans notre identité aussi. Mmh. Alors que peut-être que, des fois, il faut prendre ce temps-là nécessaire, intentionnellement, pour se trouver dans notre identité. Qui je suis, Seigneur? Ça peut prendre du temps. Des fois, ça va demander aussi de guérir de certaines blessures. Ça va demander de certaines réponses de la part du Seigneur. Ça va demander des temps d'attente. Mais c'est bénéfique. Ouais. Et puis, ça va porter peut-être même plus de fruits que si tu es là, vite, à te dépêcher à rentrer dans ton appel. Et ça n'enlèvera à rien, parce que des fois, on est trop pressé, on veut tellement accomplir, mais Dieu, il a des projets pour nous. Et c'est pas parce qu'on prend ce temps-là qui va être bénéfique que ça va enlever du temps dans le plan qu'il a pour nous. Oui. Donc, vaut mieux s'arrêter et se dire, je vais prendre ce temps-là. Certes, peut-être qu'il y en a autour de moi qui avancent, c'est cool, ils font ce qu'ils font, mais moi, je vais être intentionnelle. Ça veut pas dire que je vais rien faire, évidemment, on continue la vie. Non, mais t'es pas là à attendre.
Tu fais quoi? Je change mon identité. J'attends.
Mais ce que je veux dire, c'est que t'es intentionnelle dans cette recherche, dans dire, Seigneur, je veux découvrir qui je suis en toi. Mm-hmm.
Et enlever ces étiquettes. Ces étiquettes, ouais. Parce que, mine de rien, ça, c'est quelque chose qui pèse. Tout, c'est impossible. Enfin, franchement, je pense, c'est impossible qu'on n'ait pas eu une étiquette à un moment donné. Et ça peut être quelque chose qui a été mis avec malveillance, mais quelquefois, c'est juste avec bienveillance. Même juste, t'es le dernier de ta famille. Bon, on peut toujours t'appeler le petit bébé de la famille, puis tu restes coincé un peu dans cet état de bébé.
Après, il y a
bébé,
des avantages. Hein. Oui.
ça, c'est des tapes bien. Tu sais jouer de ces étiquettes sans les accepter. Bravo.
Mais moi, je trouve, Annabelle, qu'il faut vraiment s'arrêter puis de dire, est-ce qu'il y a une étiquette qui a été mise sur ma vie que je dois enlever littéralement? Moi, j'en avais une, écoute, j'étais à l'école secondaire. Tu sais, quand tu commences à avoir des changements de forme, puis tout ça, tu sais. Puis moi, j'ai été élevée dans un milieu où ma mère était elle me valorisait beaucoup. Fait que, tu sais, la vie était belle jusqu'au jour où j'étais confrontée au regard un peu masculin. Et là, c'était l'heure du lunch, j'étais à la cafétéria. Donc, maman m'avait fait un petit lunch et puis j'avais mes sandwichs, j'étais avec les copines. Et là, il y a le plus beau gars de l'école qui arrive. Toutes les filles le trouvaient super beau, tu sais. Et là, il s'approche de notre table. Et là, j'étais tellement fière. Et puis, il me dit, il me regarde, je dis, il va m'inviter à quelque chose. Quoi. Mais non! Il me voit deux sandwichs, puis il me dit, comme ça, devant tout le monde. Je pense que un sandwich, ça aurait été suffisant.
Oh, c'est horrible.
Et pas les millions. Oh, mais moi, tu sais, je n'étais même pas rien. Tu sais. Regarde, face à ce croissant-ci, là, tu te dis, déjà, tu le vois me dire un croissant.
C'est pour ça que tu t'attends ça aujourd'hui.
Non, mais
c'est là dans ta mange que les fruits. Mais...
Vous rigolez, mais ceux qui me connaissent de près savent que c'est et bien sûr que ça.
Donne-nous son nom, on va faire un appel.
Je ne pas demain, maintenant, tout se sait. Mais il a marqué pareil. Alors, tu arrives, tu te développes, puis là, tu es un peu comme humilié. Puis là, depuis ce temps-là, tu sais, surtout les femmes, la notion du poids, l'image. Écoute, il a cassé quelque chose en moi. Puis là, tout le long, je vais manger un bleuet, c'est sûr. allez manger votre croissant, les filles, là. Allez, première à manger le croissant. Mais j'ai dû lutter quand même. Wow. Maintenant, si je fais des choses du sport, c'est pour moi parce que je veux être bien. Mais ce gars-là, il a marqué quelque chose à moi. Mm-hmm. Et j'ai dû prier qu'il enlève l'étiquette de ça. Mm-hmm. Et il y en a plein. Des fois, c'est un professeur qui dit que tu ne seras jamais intelligent. Des fois, c'est un père qui dit que tu n'es jamais... Bon, pas besoin de les nommer, hein. Vous pouvez les... Alors, c'est important de dire, Seigneur, dernière, peut-être, tu sais, quelqu'un écoute l'émission, me dit, est-ce que j'ai une étiquette que je devrais enlever? Mm-hmm. Tu sais, en écoutant, je me dis ça, je lutte avec ça. Des fois, c'est enfoui, puis on vit avec ça, mais on est tellement bien quand on décolle ça.
Puis quelquefois, c'est vraiment comme anecdotique.
Oui!
Tu sais, tu te dis, ouais, c'est une histoire d'enfance, et voilà. Mais on va pas maudire
sur le canapé en jeu
ce petit garçon, parce qu'il a sûrement pas mesuré l'impact de ses paroles. Mais du coup, tu sais, après, quand tu vis, tu te dis, oh, c'est bon, c'est juste. Mais c'est de se dire, bah, est-ce que ça apporte encore, est-ce qu'il y a une racine? S'il y a une racine, bah, même oui, si c'était une parole qui a été vite fait à la volée dans une cour d'école, j'avais 6 ans, peu importe. Cette parole est toujours active dans ta vie, bah, ça vaut la peine de l'enlever. Moi, je me souviens. Mais tu dois connaître l'histoire, Aurélie. Mais une fois, il y a une copine de ma mère qui a dit, oh, tu vois, Annabelle, elle a les deux pieds dans le même sabot. En plus, je savais pas ce que ça voulait dire. Donc, moi, j'aimais bien apprendre des nouvelles expressions et tout. Ça veut dire quoi? Et là, elle m'explique ce que ça veut dire. T'as les deux pieds dans le même sabot parce que tu sais pas te débrouiller, blablabla. Du coup, elle m'explique vraiment en détail ça veut dire quoi, ce qu'elle venait de me dire. Et en fait, franchement, pendant longtemps, même après, j'y repensais, tu sais, dans ma vie, oh, j'ai les deux pieds dans le même sabot, mais cette femme-là, elle était pas méchante, elle était pas, je vais détruire sa vie, elle a pas détruit ma vie d'ailleurs, mais c'est des paroles, pour une raison, pour une autre, clac, elle s'accroche, et elle s'accroche à toi, et puis tu grandis, tu vis avec, et quelquefois on les transporte, mais jusqu'à très très loin, tu vois, et tu te dis, mais c'est quoi, pourquoi est-ce que je réagis encore comme ça, puis le Saint-Esprit te ramène, là, quand t'avais 8 ans, t'as les deux pieds dans le même sabot, Annabelle.
Mais c'est pour ça aussi que c'est une œuvre de l'ennemi, hein, de vouloir brimer et détruire l'identité. Tu avais parlé du vol d'identité, Stéphanie. C'est pour ça qu'il faut réaliser que c'est pas normal on transporte toutes ces choses-là, en fait. Et s'il y a des blessures, comme Laure a dit, il faut pouvoir vraiment s'arrêter et dire, je vais traiter cette question. Si on réalise l'ampleur de quelque chose, on ne va pas vivre comme si ça n'existait pas. Et je crois qu'on réussit à vivre avec des problèmes d'identité parce qu'on n'est pas conscient que notre identité détermine toute la suite de notre vie. Mais plus tu vas commencer à prendre conscience que, en fait, c'est vraiment mon identité qui définit mon lendemain, qui définit la suite de ma vie, mais tu vas t'arrêter pour traiter cette question-là. Quand tu penses, si tu crois que, ok, je peux vivre en étant... c'est quoi l'expression, les pieds dans
les deux pieds dans le même sabot.
Si toi aussi t'aurais demandé, ça veut dire quoi?
Si tu penses que tu vois, tu peux vivre comme ça en fait avec cette parole-là, parce que tu continues à vivre, c'est ok. Tu penses que tu peux te débrouiller en fait? Mais tu es en train de passer tellement à côté de ta meilleure vie possible, parce que tu t'es pas arrêté pour traiter une question. Donc il est temps en fait qu'on réalise que tout ce qu'on ne traite pas sur notre identité nous éloigne du bonheur, nous éloigne de notre meilleure vie, nous éloigne de ce que Dieu veut faire avec nous.
Mais l'identité, c'est aussi beaucoup relié à ton estime de toi.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que, je pense que l'estime, on le sait, c'est apprendre à connaître tes forces et tes faiblesses et tes limites, tu vois. Ouais. Et moi, je pense que quand on accepte qu'on a des limites, qu'on n'est pas parfaite, mais qu'on a des qualités, si je vous me faisais... On fait un petit exercice. Non, je vous fais pas ça. Une petite question à Stéphanie. Mais mettons, je te dis, écris 5 qualités toi ou 10 qualités de toi. C'est plus facile d'écrire 5 défauts, 5 choses que je n'ai pas, que dire 5 choses que j'ai. Surtout en plus quand on a arrière-plan, des fois, critique, ça dépend de notre arrière-plan chrétien, mais dans certains cercles chrétiens, moi, j'ai rien. C'est presque de l'humilité, on est tombé à l'humiliation, ce qui est complètement différent. Dieu nous a créé avec des dons, avec toutes sortes de choses, et c'est pas de l'orgueil de dire, ben, moi, j'ai ce don-là. Et une certaine génération, c'est peut-être plus facile, mais quand tu recules dans le temps, c'était plus difficile de dire, c'est quoi ma valeur, c'est quoi mes forces? Et là, une fois que tu sais tes forces, ben, les deux pieds dans le même sabot, c'est pas vrai. Donc, je rejette de tout ce qui est vrai, c'est l'objet de mes pensées. Et moi, je peux manger des croissants. Ouais, ouais,
laisse-moi, Stéphanie, te tartiner une belle tranche.
Oh, pour montrer qu'elle est éthique.
Regarde-moi ça.
Elle est complètement libre. Elle m'a
moi.
Non, mais tu sais quoi? Et ça, tu dis, ça, c'est pour toi, truc. Et puis tu croques dedans.
Regarde, Stéphanie, je t'offre cette
merci,
belle tranche.
Merci, merci.
Qui est tartinée. C'est trop long de tout tartiner.
Allons-y, allons. Allez, vous, vous mangez pas de croissant. Quand mais on mange, on mange le regard. Il mange des blous. C'est trop
hey, on parlait de. J'ai on, parlait des, on parlait des enfants. Et aussi, en tant que parents, bah, on a un rôle à jouer.
Oui.
Alors, c'est sûr que on peut pas, comme on a dit depuis le début, c'est que chacun doit aller chercher à un moment donné son identité soi-même dans ce face-à-face avec Dieu. Mais en tant que parent, on peut contribuer à ce que notre enfant se connaisse son identité le plus tôt possible. Et puis, ouais, c'est ça. Oui. Puis, en tout cas, n'est pas non plus soit pas sur le chemin d'une mauvaise identité. Après, il y a des choses en tant que parent qu'on pourra pas faire. Puis, en tant que parent. Bah, faut aussi accepter que quelquefois nous-mêmes, peut-être qu'on va un petit peu rajouter un peu de flou dans tout ça parce que bah on n'est pas Dieu et voilà, faut pas chercher à être parfait. Oh, mon enfant va avoir un problème d'identité si je sais pas exactement qui il est. Bah, il y a des choses, il y a que Dieu qui va pouvoir le révéler. Donc c'est bon, on peut déjà se déculpabiliser. Non, mais par rapport
moi,
à
du coup,
ça.
Moi je prie d'avance. J'ai envie de dire, Seigneur, bah, là où on a manqué avec ça, mais merci parce que
bien comblé.
Et je vais vous dire une phrase remplie de sagesse, jeune maman que vous êtes. Souvent, à une certaine période, ils vont dire, je veux pas ressembler à mon père, je veux pas ressembler à maman. Et en vieillissant, ils nous ressemblent et ils font les mêmes choses qu'on a faites. Tu vois, soyez encouragés si jamais vos enfants vous disent, non. Mais non, ça revient.
Ouais, ça dépend ce que c'est quand même, parce que ça veut pas qu'il fasse forcément.
Non, mais les bonnes choses, des fois, tu vois, les bonnes choses.
Ouais, ma mère, elle disait, Dédane, c'est bien, physiquement, t'as pris le meilleur des deux. Mais quelquefois avec Eden, on lui disait, tu vois, on lui a mis l'étiquette. Voilà, pardon, Eden. Et quelquefois, on lui disait, par contre, dans notre caractère, c'est comme quelquefois, t'as pris nos défauts. Waouh! Mais elle a ses qualités à elle aussi. Mais donc, voilà, en tant que parent, en fait, t'as tout le temps une parole un peu facile. Et quelquefois, bah oui, bon, bref, on va pas rentrer là-dedans. Sinon, je vais devoir l'appeler pour m'excuser. Mais c'est la première chose, c'est en tant que parent, bah, de prier pour savoir qui est mon enfant et qui est cet enfant que tu m'as confié pour être sûr, premièrement, de pas créer un enfant à son image. Parce qu'on peut avoir ce désir en tant que maman de créer un enfant à son image. Alors, parce que quelquefois, on a des idées super préconçues, mais d'autres fois, avec une bonne attention, je dirais. Mm-hmm. C'est parce qu'on se dit, c'est comme ça que ça devrait être un enfant. Et moi, mon enfant, j'aimerais qu'il soit comme ci, comme ça. Mais si on prend pas le temps de prier pour demander à Dieu, mais révèle-moi, c'est quoi, comment tu vois cet enfant, qui il est, ben, on saura pas sur quoi insister. Mm-hmm. Les choses, on va peut-être percevoir des choses comme des défauts, alors qu'en fait, c'est des forces, mais qui ont besoin d'être sanctifiées, clairement. Et c'est pour ça, en tant que parent, bah, on a cette belle responsabilité de pouvoir conduire notre enfant vers son identité sans en être l'auteur non plus. Et ça, c'est important de faire la différence. On est des guides, mais on n'est pas les créateurs.
Ouais.
C'est ça.
Ouais, et il n'est pas trop tard aussi, tu vois.
Je suis sortie. Allez, moi, je ne t'assure. Je partage ma victoire.
En fait, par rapport à ça, il n'est pas trop tard, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà commencé, qui ne se sont pas forcément posé ces questions, mais il n'est pas trop tard. Oui. Et Dieu a toujours... En fait, la destinée, elle est là, en fait. Elle attend, quelque part, la manifestation de cette personne-là.
J'ai cherché, fouillé.
Mais il faut prendre ce temps. Et quand tu parlais, je pensais à, tu vois, la naissance de Jean-Baptiste, la naissance de Jésus. Tu vois, il y a un ange qui vient, qui dit clairement que voici ce que cet enfant est appelé à faire. Et les parents, ils savent que, OK, cet enfant, il est appelé à faire telle chose. Et pour Jean-Baptiste, ça implique qu'il vit d'une certaine manière, il se nourrit d'une certaine manière. Il a des choix qui sont différents des choix des autres enfants de sa génération, tu vois. Donc, ça, en tant que parent, mais c'est les parents qui ont dû pousser cette chose-là. Parce qu'un enfant a besoin...
Mettre en place,
c'est ça. Un enfant, il a besoin de cet encadrement et de ce soutien. Donc, si, supposons que, voilà, comme tu as dit, Annabelle, il y a quelqu'un est en voie de devenir parent et tout, c'est important de le savoir au plus tôt. En tout cas, au plus tôt, c'est le must. C'est on va dire ça comme ça. Mais si on l'a pas su... Si on l'a pas su, en fait, il n'est jamais trop tard.
Ouais, ça, c'est bon.
Il n'est jamais trop tard. Et en tant que parent, comme la Bible dit que vraiment les parents, les enfants sont
comme des flèches dans la main d'un archer. C'est vraiment le parent doit donner une direction, en fait. Il doit propulser son enfant quelque part. Et pour ça, même si l'enfant peut avoir un certain âge aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Parce que ce rôle, c'est vraiment Dieu l'a donné aux parents. Mmh. Dieu a donné cette responsabilité aux parents de propulser leurs enfants dans une certaine direction. Et même s'ils sont grands aujourd'hui, tu peux encore dire à Dieu qui est mon enfant et l'orienter, en fait.
Mais tu... Mais tu vois déjà l'importance aussi de connaître ton identité, parce que ça va aussi t'aider pour tes enfants. C'est-à-dire que tu vas pas forcément... Des fois, tu absorbes les choses et puis tu peux sans t'en rendre compte les retransmettre à tes enfants avec tes filtres et tout. Donc déjà, pour toi-même, pour ta propre, tes propres enfants, c'est bon aussi de connaître ton identité. Et comme tu dis, effectivement, comme vous le dites, on a vraiment une responsabilité parce que c'est comme leur destinée, entre autres, pas dépend de nous. Parce que voilà, comme tu l'as dit, on est des outils par le Seigneur. Voilà, Dieu nous utilise. Voilà, on n'est pas les créateurs. Faciliter. Mais on peut tellement faciliter. Et puis surtout dans les temps où on est, tu sais, où c'est un peu du n'importe quoi dehors et tout, on doit vraiment être intentionnel et pas se dire, bon, ça va aller, ou oh, au pire, il y a l'église. C'est sûr que l'église, non, mais c'est sûr que l'église va aider. Et d'ailleurs, une bonne chose d'aller à l'église, pense à tes enfants aussi avant tout, parce que c'est sûr que vu comme c'est dehors, c'est vraiment important, ça va aider dans leurs valeurs et dans leur identité. Mais de vraiment être intentionnel et d'ouvrir la bouche, de communiquer, de dire les choses. Des fois, on dit rien, puis on pense peut-être même que juste par nos actions, ou juste par, ils vont peut-être le deviner, ou tu sais, c'est parce que peut-être que nous, ça a été comme ça, ou on se dit, je sais pas, on suppose. Mais de vraiment être intentionnel, non, il faut que je le bâtisse. J'ai cette responsabilité, il faut que je le prenne à cœur. Puis c'est, le temps est quand même court pour un enfant quand il pense. Il naît, puis il est, je sais pas moi, à quel âge on peut dire qu'il a une idée de qui il est, à 15 ans, 16 ans, 17, je sais pas à quel âge on a vraiment une idée. C'est quand même assez, quand même, tu vois, je sais pas moi, 17, 18.
Ouais, c'est sûr qu'à ces périodes-là, 16, ils peuvent être
émotionnels. T'as une idée, là, et c'est à ce moment-là où ils vont regarder dehors. Ils vont regarder les amis et tout. Ils vont peut-être plus trop t'écouter, même si tu les as pas, tu leur as pas beaucoup parlé. Puis ils vont aller regarder dehors. Donc le temps est quand même limité. Donc il faut qu'on donne tout ce qu'on a pour.
Mais avec l'ouverture, par exemple, tu sais, des fois, on veut les, comme une flèche, on veut les propulser, leur donner une direction. Mais il y a aussi, ça se peut que la direction, elle peut être bonne, mais pas nécessairement comme moi, je pensais. Tu sais, dans une des émissions que j'ai racontées, moi, parce que j'étais une scientifique, ils sont allés au collège scientifique, tu sais, super. Mais c'est des artistes, tu vois. Parce que moi, dans ma famille, c'était pas possible de penser être un artiste, tu vois, de penser de gagner ta vie comme ça. Donc, moi, j'ai manqué, tu sais, j'aurais dû leur faire essayer plus de cours de musique, de ci, d'art, parce que, et ainsi de suite. Donc, c'est bon. Tu sais, c'est erreur aussi ton identité de trouver tes dons, tes talents, en essayant peut-être quelque chose que moi, j'aurais pas été. Tu sais, moi, le chant, zéro, tu vois, ou la musique, zéro intérêt. Ouais. Mais eux, il y avait de l'intérêt. Donc, tu sais, d'essayer de dire, quoi qu'ils ont fait des cours de piano, là, mais toi, d'essayer des trucs, c'est comme ça que tu trouves
qu'une famille chrétienne, quand même.
Mais savez-vous que moi, j'ai déjà fait des cours de 5 ans de violon, 5 ans de piano.
Bravo!
Ah ouais?
Bravo.
Mais ma mère, ils ont essayé de me faire développer la musique et j'étais vraiment nulle, quoi. Mais tu vois, ça, j'apprécie des cours de toutes sortes de choses. Et là, tu peux te bâtir et te dire, ben, j'ai des dons. Et ça bâtit ton estime aussi.
Et tu vois, ce qui est trop cool dans ce que tu dis, c'est que comme toi, tu te connais, ben, ça te dérange pas d'être nulle en musique.
Oui.
Mais, non, mais c'est vrai. Mais parce que quand tu te connais pas, t'es comme en train de convoiter tout le monde, toujours tout le monde. Oh, j'aimerais tellement être comme ci, comme ça. Pourquoi moi, je peux pas? Mais une fois que tu te connais, t'as plus cette idée. Tu te réjouis pour les autres et tu marches dans la liberté, dans la joie.
Tout à fait.
Et, c'est ça. Donc, un quel conseil à nos enfants.
Moi, Ida, je l'ai inscrite à plein de choses.
C'est ça qui est bien, moi, je trouve.
Ouais, mais moi, ça m'a frustrée. Dans le sens, je me dis, il n'y a rien qui l'a... Ah. Mais parce qu'elle était super enthousiaste au début. Ah, puis en plus, c'est le genre, après, même en grandissant, c'est pire en pire au niveau budget. C'est comme, non, mais parce qu'elle se met, genre, elle a à fond, c'est
là, t'achètes le Stradivarius. Là,
il faut tout
d'un violon.
Il faut tout pour... il faut tout, tu vois, avant de pouvoir commencer, avant de commencer le sport. Il faut tout acheter. C'est comme, juste commence avec ce que t'as, puis on va voir. Et tu vois, au début, ça me décevait, je pense, un peu pour moi. Je voyais ça comme un manque de persévérance. Ouais. Mais en fait, ça fait aussi partie de sa personnalité. C'est qu'elle aime plein de choses, mais elle n'a pas une passion unique. Et tu sais, il y a des enfants, ils trouvent leur passion unique. Ouais. À 6 ans, ils sont passionnés d'un truc et puis ils vont l'être toute leur vie et tout ça, ça va faire partie. Mais alors, Eden, pas du tout. Tu vois, elle était passionnée d'un truc pendant. Puis ça durait un petit peu quand même, donc ça me donnait de l'espoir, tu vois. Non, mais c'était pas deux jours. Ça pouvait être quelques mois. Mais après, on passe à autre chose. Oh, mince. Tu sais, tu prends des cours ou t'investis, t'achètes des trucs. Enfin, bref, tu mets des trucs en place. Et en fait, je me suis rendu compte, bon, bah, c'est, faut juste pas investir. Ça, c'était la révélation qui fait que je le vivais un petit peu mieux. Et puis, bah, c'est ça, ça fait partie de sa personnalité, de, d'aimer plein de choses.
Mais tu vois ce qui serait intéressant, mais ça, c'est un autre sujet. Mais jusqu'à quel point il faut pousser nos enfants?
Oui, oui, leur... parce que après, ça, tu vois, parce bah, après, ouais. Sinon, en dehors du loisir, non, mais en dehors du loisir, c'est clairement un manque de persévérance.
Ok.
Parce que,
bah non, mais avec
alors,
la
tu fais la vaisselle, goutte de verre. Non, c'est bon, j'ai envie de passer à autre chose.
Là, tu dis les dons, les terrains. Moi, on les avait mis au baseball, tu vois. Mais là, t'as tous les petits gars, ils sont à fond au baseball. Moi, j'ai le mien qui est au champ, mais il est à quatre pattes, puis il cherche des tresses. Des... vas-y, je dirais pas lequel des deux, pour pas la faire. Mais carrément, c'est tout. Tu as tous les permis debout. Et qu'est-ce que tu fais?
Du coup, t'as pété pour les deux avant pour faire croire que c'est ton fils.
T'as un coup de circuit qui passe. Bah, là-bas, il cherche son truc. Non, mais bah, c'est terminé.
Mais c'est pour ça qu'il faut être flexible. Oui, tu vois. C'est pour ça qu'il faut le faire avec un cœur ouvert, un cœur qui est prêt à se repositionner, se redimensionner. Mm-hmm. Sinon, on finit frustré. Sinon, ça affecte encore notre propre estime, mais maintenant par rapport à nos enfants, pas par rapport à soi-même, tu vois. Donc, il faut rester ouvert et la direction et aussi avoir confiance en Dieu par rapport à la direction pour nos enfants. Dieu, il les a créés, il sait ce qui est bon pour eux, le parent, mais lui, il est comme vraiment un canal, un instrument et il doit être assez flexible pour conduire. Si c'est pas cette direction, il doit accepter de se réorienter en accompagnant et c'est ça en fait l'investissement aussi d'un parent, c'est de se dire moi, j'ai tel nombre d'enfants et je dois, pour chacun d'eux, avoir cette écoute du Seigneur, cette orientation, et avec un cœur ouvert et un cœur vraiment flexible.
C'est pour ça que j'en ai qu'une. Et c'est important, et parce qu'il y a des choses aussi, on n'a pas besoin d'avoir vraiment une révélation, je dirais, prophétique, hyper précise. C'est qu'il y a des paroles d'affirmation qui vont bâtir nos enfants dans leur estime, dans leur confiance en Dieu, dans leur confiance en eux. Et ça, c'est important aussi en tant que parent, tu sais, de pouvoir prendre nos enfants, les regarder droit dans les yeux, puis de leur dire qu'ils sont géniaux, qu'ils sont super, qui sont intelligents, qui vont réussir, que de leur dire ces choses-là, ça dépose quelque chose en eux. Quelquefois, bah quand ils sont petits, ils trouvent ça rigolo, ils trouvent ça mignon. Puis quelquefois, il peut y avoir une période où ah c'est bon maman, arrête. Et c'est le moment où il faut continuer, il faut persévérer. Parce que comme, tout comme tu dis, à un moment donné, oh, moi je veux pas être comme toi, blablabla. C'est vrai qu'il y a des périodes, les enfants, ils sont un petit peu en réaction. Et mais c'est le moment où il faut pas lâcher parce qu'on va voir le fruit de tout ça après. Et puis moi, je trouve ça trop beau, tu vois, quand t'as des jeunes adultes qui disent, ouais, mais moi, ma mère tous les jours, elle me disait que j'étais hyper intelligent, et tu sais, un enfant qui vivait, je sais pas moi, l'intimidation ou je sais pas quoi, qui avait pas des bonnes notes. Mais le fait d'avoir eu un parent qui lui disait ça tous les jours, bah ça a contrebalancé balancer tout ce qu'il pouvait vivre à l'extérieur. Donc pour ça, bah ça c'est sûr que on n'a pas besoin, je le redis, d'une révélation particulière. Juste faites-le, même si vous comprenez pas, juste faites-le.
Et ce qui est beau, c'est que Dieu le fait envers nous aussi.
Bah oui, c'est ça.
Dieu, quand on va vers lui, qui nous encourage, toutes les promesses de Dieu pour nous, tout ce qu'il dit de Dieu, ça c'est bon pour l'identité de faire un peu. Tu sais, tu prends toutes les promesses, mais de comment Dieu nous voit, comment Dieu nous a aimés. Savez-vous que ça dit que nous sommes un sacerdoce royal?
Est-ce que maintenant tu sais ce que c'est un sacerdoce?
Je te l'ai dit, royal.
Mais c'est vrai que autant que de répéter.
Tu répètes ça à ton enfant. Tu répètes ça en dos royal.
J'ai dit tout le monde. C'est pas grave, t'es royal, c'est royal.
Il arrive à l'école, il dit, je suis un sac d'os. Ma mère me dit ça tous les jours.
Mais c'est vrai que c'est fou le de répéter ce genre de verset. Non, mais comme ça va avoir un impact.
C'est mieux de le comprendre avant.
Mais j'ai dit, même si tu comprends pas, c'est pas grave.
Dans la déclaration, c'est vrai qu'il y a vraiment du fruit. Donc c'est important de ne pas hésiter à le répéter, même si aujourd'hui, ça fera pas forcément quelque chose, mais il y a un dépôt. Et pour nos enfants, c'est pareil. L'investissement qu'il y a, alors à chaque fois qu'on dit quelque chose, ça rentre pas dans rien. Il y a vraiment un dépôt. Et c'est important. Et c'est vrai que les enfants, après, ça les bâtit. Et ils sont comme presque inébranlables. Par exemple, on va dire, je t'aime pas. Mais moi, je sais que je suis aimée. C'est comme ça va faire tac, tac, ça va sortir de suite, en fait. Tu vois, il y aura même pas une hésitation parce qu'il va y avoir un investissement.
Mais faut pas oublier qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas.
Aussi, ouais. Mm-hmm.
Donc, tu sais, c'est ça qu'on peut, comme moi, ma mère, c'est une femme qui, elle a dit beaucoup dans ses paroles, mais elle-même, elle avait des gros défi d'estime d'elle-même. Mm-hmm. Donc, elle a fait du mieux, mais il y a des choses que tu peux transmettre parce que tu es.
Ouais. Mm-hmm.
Donc, comme notre identité, mm-hmm. là, c'est, on va le chercher pour nous. Et fois qu'on
elle parle au modèle aussi.
Oui, mm-hmm. mais on peut le transmettre mieux à nos enfants. Tu sais, on peut le dire parce qu'on comprend la théorie. Mm-hmm. Mais Annabelle nous a dit qu'il faut... Je fais des blagues, mais tu sais, on sait que c'est bon de le dire à nos enfants, mais si on le vit pas, mm-hmm. nos paroles ont moins d'impact que si t'es un modèle de par ta vie. Tu sais, donc, c'est important d'aller chercher pour soi. Et après ça, on peut mieux le transmettre, tu sais, à nos enfants, mais le transmettre aux gens autour de nous aussi, d'amener des paroles de vie comme ça.
Ouais. Et très rapidement, comme on a parlé tout à l'heure de Moïse, bah, toi Aurélie, t'as parlé de Moïse.
Oui.
Et Moïse le libérateur. Et t'as dit un truc qui était quand même très fort. Moïse le libérateur, c'était son appel. L'homme puissant, et c'était quoi l'autre chose que t'as dit?
Puissant papier, mais puissant.
Puissant
sur papier.
Ah oui, voilà. Lui, il se voyait comme bègue.
Lui se voyait comme bègue.
Le peuple le voyait comme un homme puissant. Et Dieu le voyait comme
le libérateur de son peuple.
Fort. C'est beau.
Et c'est comme Dieu veut venir à la fois effacer ce qui n'est pas de l'identité et puis aussi créer le point de connexion, parce que quelquefois on a des bouts de qui on est un petit peu partout, mais il y a aucune connexion entre, ce qui fait que ça va poser problème particulièrement pour entrer dans notre destinée. Comme pour Moïse, il avait des bouts, mais à cause aussi de son histoire familiale, tu vois, il avait une histoire familiale qui était très particulière. Il avait des bouts, ça fait que, je suis un libérateur, donc il va tuer un Égyptien, tu vois, dans la foulée, quoi. Hop, on y va. Et en fait, dans ce temps après de fuite, et tu vois, un peu son côté de sa personnalité, de se dire, oh mince, j'ai mal fait, j'abandonne, c'est pas péjoratif dans le sens où je suis peut-être pas qualifiée, voilà, ou j'ai raté ma chance, tu vois. Ouais. Mais dans ce temps de désert, il a découvert qui il était en tant qu'homme, au-delà, sans pharaon, sans tout ce poids, ce fardeau même de l'appel. Et puis, il y a des temps comme ça, pas forcément 40 ans, mais où on a besoin d'être épuré, puis d'être éloigné peut-être de tout ce qui nous rappelle tout un tas d'identités, d'étiquettes et de tout ça. Et c'est pour ça, Jérémy, mon mari, dit souvent, il faut mettre l'appel sur l'autel. Je lui dis, j'ai jamais compris pourquoi tu disais ça. Et parce que tu vois, il y a des gens pour qui l'appel est constamment sur l'autel, il faut le ressusciter, mais pour d'autres, ils vivent avec cet appel-là constamment. Mmh. Et du coup, l'appel vient surpasser l'identité et ça te fait faire tuer des Égyptiens trop tôt. Tu voulais ajouter quelque chose sur ta révélation de Moïse?
Il y a quelque chose que je pensais, mais qui m'est sorti.
Excuse-moi, Aurélie.
Quand tu parlais.
Tu as 2 minutes pour t'en souvenir.
Je te dis.
Non, c'est pas, on dit pas tac-tac, on fait tic-tac. Bon, en tout cas, merci beaucoup, les filles. Si ça te revient, encore 1 minute 30. 1 minute 30. Et c'est pas trop tard, on a dit, pour les enfants, en tant que parents, pour découvrir et puis aider nos enfants par rapport à leur identité. Mais c'est pas trop tard pour nous aussi, en tant que personnes, de découvrir son identité ou avoir une plus grande mesure de la révélation de son identité. Même quand on a 40 ans, 50 ans, ce serait la pire chose qui pourrait arriver. Bon, c'est trop tard pour moi maintenant. Non, c'est pas trop tard. Même s'il restait qu'une semaine, ça vaudrait la peine de pouvoir vivre pleinement dans l'identité que Dieu nous a donnée. Et en fait, il y a quelque chose de très simple, c'est juste d'aller vers le Créateur. Quand il pense comme ça, c'est juste, je retourne vers le Créateur qui m'a créé.
Tout part d'une rencontre, Annabelle. Je crois que ceux qui me connaissent, j'ai déjà dit ça 100 fois. Tout part d'une rencontre et ça a été le cas pour, quand tu lis la Bible, pour toutes les personnes qui ont une histoire avec Dieu. Et il a fallu une rencontre. Pour Moïse, c'était dans le buisson, près du buisson. Pour Paul, c'était sur le chemin de Damas. Pour les disciples, c'est quand ils ont rencontré Jésus. Il a fallu qu'il y ait une rencontre qui a marqué leur vie, qui leur a révélé leur vraie identité et qui les a propulsés dans leur destinée. Donc, si on veut vraiment vivre notre identité, il faut une rencontre avec Jésus-Christ. Une vraie rencontre qui ne se base pas sur de l'information, la théorie, mais un face-à-face, quelque chose de fort qu'on vit avec Dieu, qui change tout, en fait.
Et toujours garder en tête que Dieu nous aime pour qui nous sommes et pas pour ce qu'on va faire. Et ça, je pense vraiment l'accepter et le réaliser. C'est juste pour qui on est. Pour s'enlever la pression de « il faut que je performe, il faut que je fasse, il faut que j'aille
j'aille gagner l'amour de Dieu. Et je pense que c'est quelque chose qu'on le sait, mais il faut vraiment le réaliser.
Oui, puis notre identité n'est pas associée à une fonction, à un travail, à quoi que ce soit. C'est qui on est, et c'est plus important d'être que de faire. Oui,
oui, merci.
Soyons.
Je laisse partir à cette rencontre. Mais on va se retrouver quand même. On va pouvoir se retrouver demain. Et puis, on va continuer de creuser sur le thème de l'identité. Merci, les filles. Merci, mange ta brioche.
Je t'ai tartiné le tranche de brioche. S'il te plaît, prends-la.
Bon, allez, à demain. Comme vous l'avez entendu dans le podcast avec les filles, de notre identité découle tellement de choses, y compris juste notre destinée. Et puis tout un tas de choses, de grandes décisions aussi qu'on peut prendre dans notre vie. D'où l'importance de savoir qui on est et de pouvoir prendre le temps de faire cette recherche, d'aller à cette rencontre avec notre créateur. Et j'aimerais souligner un point par rapport à cette recherche, c'est de ne pas rester dans un mode en recherche perpétuelle où toute ma vie, je vais être à la recherche de moi-même, à la recherche de mon identité. Parce que à travers cette rencontre qu'on va faire avec Dieu lui-même, ce face-à-face qu'on peut avoir, alors ça peut sembler comme être un grand mot, un face-à-face, mais c'est cette rencontre d'intimité où il va pouvoir nous parler et qu'elle soit très simplement, très doucement dans notre cœur, mais déposer en nous cette vérité concernant notre identité. C'est important de pouvoir la saisir, de pouvoir la noter, de pouvoir l'écrire et de repartir avec cette révélation pour ne pas passer toute une vie à rechercher, mais pouvoir, à partir de cette révélation, construire, tout simplement, construire, se dire, voilà, maintenant, Dieu m'a dit qui j'étais, et de là, je dois chercher une plus grande révélation, une meilleure compréhension. Je dois chercher à manifester mon identité, et c'est mon identité doit se trouver dans tout ce que je vais faire, et dans les décisions que je vais prendre, la façon dont je vais même interagir avec les gens, dans mes relations, etc. On doit retrouver mon identité, mais c'est différent que de constamment chercher son identité, parce que chercher son identité ne nous fera rien construire, ne nous fera rien bâtir, et puis on risque au final de tourner en rond. C'est pour ça que c'est aujourd'hui le moment d'aller dans la présence de Dieu et de lui dire qui suis-je, mais après de pouvoir ressortir et de partir avec notre carte d'identité, mais qui n'est pas une formalité administrative, mais une carte d'identité à laquelle je vais pouvoir me référer et dire Seigneur, parle-moi encore, développe, montre-moi comment est-ce que ce nom se développe, montre-moi comment cette fonction se développe. Et comme ça, vous allez voir que vous allez avancer en sachant qui vous êtes, mais en même temps, vous allez commencer à construire et puis vous allez voir des choses se mettre en place dans votre vie. Et j'aimerais aussi prier avec vous un instant, parce que je crois que le Saint-Esprit veut enlever des étiquettes. Alors on va prier ensemble. Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de vérité, je crois que maintenant même tu veux retirer des étiquettes. Alors viens faire cette œuvre, viens faire cette œuvre au plus profond des cœurs, viens retirer des étiquettes de mensonges, viens retirer les étiquettes de limites, viens retirer ces étiquettes, même avec quelquefois des surnoms, des étiquettes de moqueries, des étiquettes d'insultes qui ont pu être données, des étiquettes avec des mauvaises directions, des mauvaises directives. Esprit de vérité, viens faire ton œuvre maintenant dans les cœurs. Et nous accueillons ta vérité. Nous accueillons ta vérité, même si elle vient chambouler tout ce qu'on a pu croire toute notre vie. Même si elle vient chambouler des mensonges qui se sont imprégnés en nous. Oui, Esprit de vérité, nous acceptons que tu fasses maintenant ce travail. Ce travail où tu viens toi-même déraciner, où tu viens rebâtir, tu viens ramener la vérité par des paroles de vérité, par une parole, oui, une parole de vie. Oui, que cette vie puisse se manifester maintenant dans toi, en toi, dans le nom de Jésus. Alors merci d'avoir été avec nous dans À Table avec Annabelle. Et puis à bientôt. Bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions À Table avec Annabelle sur emcitv.com.